Des passions, l'innovation culinaire, des associations, c'est la règle de trois de Raphaël Aumont. Depuis l'enfance, il cultive deux grandes passions, la cuisine et les sciences. Né à Évry, dans l'Essonne, il poursuit des études en physico-chimie et soutient une thèse sur la rotation de la polarisation dans les systèmes morphotropiques à l'École Centrale Paris, tout ça en continuant à cuisiner. Puis, quand j'ai vu qu'on pouvait expliquer la cuisine via les sciences, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. En 2007, Raphaël Aumont écrit à Thierry Marx, le chef étoilé lui propose de le rencontrer dans son restaurant de Corday-en-Bage en Gironde. J'ai chargé ma voiture avec tout mon matériel scientifique, sauf qu'au lieu de rester deux jours, j'y ai passé toute la semaine. En 2012, il crée le Centre français d'innovation culinaire à Orsay au sein de l'université où il enseigne. Il utilise ses connaissances en chimie pour inventer de nouveaux plats et collabore avec Thierry Marx. Ensemble, ils créent notamment une bûche dont le biscuit à base de chocolat et d'eau est élaboré dans une machine à faire le vide.
Les bulles d'air ont tendance à se dilater, donc ça occupe de plus en plus de place. Et la matière grasse, celle du chocolat, elle a tendance à figer. Donc on va capturer comme ça les bulles d'air qui sont dilatées grâce au vide. Et donc ça va faire une texture vraiment très très aérée.
Expérience avec ses étudiants, journée consacrée aux collégiens, recherche perpétuelle d'innovation. Raphaël Aumont se spécialise dans ce que l'on appelle la cuisine moléculaire.
On verse un peu d'azote liquide dedans. Ça congèle instantanément. Donc là on a un sorbet 100% tomate fait instantanément grâce à l'azote liquide.
Depuis 2016, il travaille avec l'Agence spatiale européenne. En 2021, toujours avec Thierry Marx, il prépare les repas de Thomas Pesquet qui passe 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Dans Atlas des saveurs, les deux auteurs proposent des associations d'ingrédients auxquels nous ne pensons pas spontanément. Ils s'appuient sur la chimie pour combiner des aliments aux molécules communes comme le chocolat et le concombre.
La fraîcheur, la longueur, on est à peine sur 15 calories.
En introduction, il précise... Vous découvrirez, nous l'assumons, une touche personnelle dans certaines associations proposées.
Alors Raphaël Aumont, expliquez-moi en quelques mots, expliquez-nous cette théorie scientifique en quelque sorte. Si je vous suis bien, eh bien les aliments sont en quelque sorte des matériaux chimiques. Et dans votre livre, vous décrivez une quinzaine de notes aromatiques.
C'est ça.
En fait, qui sont quasiment exhaustives, qui recouvrent l'ensemble des arômes et que vous mariez... deux par deux, en quelque sorte. On l'entendait, là, le chocolat et le concombre, dans le sujet de Gallegra, ou le brocoli et la rose, par exemple.
Par exemple. Alors, en fait, l'idée, c'est que souvent, on raisonne en termes de saveurs. Mmh. Les 5 saveurs, salé, sucré, acide, amer, umami, cette fameuse saveur asiatique. Mais en fait, ça ne suffit pas. Parce que si vous prenez, justement, rose, c'est floral. C'est rien de tout ça. Vous prenez de la réglisse, c'est quoi? C'est réglisse. Et donc, en fait, l'idée, c'est de s'approcher du monde de la parfumerie. Parce qu'il y a des notes aromatiques. De la même façon qu'en sommellerie, il y a la roue des vins, il y a la roue des miels, il y a la roue, vous voyez. Donc, de façon beaucoup plus globale, on peut parler de notes de cuir, par exemple. Mm-hmm. Prenez des olives, c'est tannique, c'est tanin. Vous voyez, tout ça, ça échappe sinon à une histoire de... C'est que la langue coupée en 4 ou 5. Mm-hmm. Et donc, en fait, l'idée, c'est de décrypter un aliment. Prenez brocoli, on va regarder les molécules aromatiques du brocoli. La rose, les molécules aromatiques et olfactif de la rose.
Et les deux produits en ont en commun.
Et voilà. Et l'idée de ce qu'on appelle ce food pairing, c'est de se dire, si certains aliments ont des molécules en commun, alors elles vont exciter les mêmes récepteurs.
Food pairing, c'est donc des paires d'aliments.
De saveurs, voilà. C'est parce que ça a été créé, voilà. C'est ça. Exactement, d'association de saveurs. Et du coup, ça va exciter les mêmes récepteurs. Et donc, ça va fonctionner en bouche et au nez. Et c'est génial. Par exemple, si je vous dis mangue passion, du tout, oui. Poire chocolat. Oui. Ok, enfin. Fraise, framboise litchi, macaron de Ispahan, de Pierre Hermé, top. Et c'est ça en fait cette idée. Par exemple, dans le macaron Ispahan, framboise, rose, litchi se partagent au moins 50 molécules aromatiques.
Oui, mais Raphaël Aumont, alors par contre, betterave chocolat, moi je tique un peu quand même. Vous avez essayé ou pas?
L'idée c'est d'essayer. Ah oui, alors ce qu'on a fait avec Thierry,
vous avez tout goûté, vous avez tout essayé.
Honnêtement, on a vraiment fait une recherche bibliographique. Et ensuite, on a fait des tests. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit, parmi toute la base de données, lesquelles on va rester. Donc, on a gardé 1500. Et on s'est dit, ouais, ça, c'est sûr, ça match, c'est terreux, c'est bon. Le chocolat, un peu terreux, un peu torréfié. Si vous prenez un chocolat un peu dense, un peu noir. Et à côté, betterave, un peu rugueux aussi, un peu terreux. Donc, ça peut fonctionner.
Donc, une salade betterave-chocolat, vous nous la conseillez?
Alors, pourquoi pas? C'est-à-dire, pourquoi pas, c'est mon rôle de scientifique de dire, allez, vas-y, amuse-toi maintenant.
Justement, comment on fait? Parce que la science, la cuisine moléculaire, c'est pas forcément appétissant comme ce premier abord. Comment est-ce qu'on peut la rendre
appétissant? Parce que c'est pas appétissant parce que le mot est affreux, tout simplement. Parce que c'est un mot qui a été introduit de force en disant, regardez, on va faire la cuisine moléculaire, alors ça va être des pipettes, de l'azote liquide et puis de la fumée, et on va vous enfumer en fait. Donc c'est pas du tout le propos. Nous, on veut bien défendre la cuisine moléculaire avec Thierry Marx, à condition que ce soit un outil au service de la créativité. Donc, vous avez une boîte à outils. Vous la prenez, vous la prenez pas. Donc, vous voyez.
Mais c'est à la portée de tous. On peut en faire chez soi.
Il faut que ce soit à la portée de tous. C'est-à-dire que bien cuire un œuf, c'est moléculaire. L'agneau de 7 heures, ma grand-mère, elle faisait de la cuisine moléculaire. Si je lui dis ça, elle va me taper. Mais elle va me dire attends, t'es gentil. Mais c'est ça, parce que l'idée, c'est de cuire lentement, de déliter le collagène, d'avoir une viande attendrie. C'est de comprendre les mécanismes qui se passent quand on cuisine.
Mais est-ce qu'on peut faire des œufs brouillés à froid, comme vous l'avez fait?
Oui, parce que la question, c'est de se dire en fait, c'est le pourquoi. Le comment, c'est la recette. On a tous vu des livres de recettes. Petit 1, petit 2, petit 3. Alors, on fait un truc, on ne comprend pas forcément ce qu'on fait, mais on le fait. Et puis, on va dire, ah bah aujourd'hui, j'ai raté, aujourd'hui, j'ai réussi. Vous voyez, on ne maîtrise rien.
Mais à froid, ça veut dire donc sans allumer le gaz alors, ou sans allumer...
Voilà. Et l'idée, c'est de se reposer la question. Alors, vous me proposez, tiens, des œufs brouillés à froid. Alors, des œufs brouillés, ça veut dire, normalement, j'ai cuit les protéines.
Ouais.
C'est juste ça qu'il faut comprendre et apprendre. Et après, on se dit, bah alors, les protéines, ça chauffe ou ça cuit comment? Est-ce que ça a besoin de chauffer? Par exemple, si vous mettez du jus de citron sur du saumon et que vous mettez ça au réfrigérateur, ou du thon, vous avez dit, ça fait comme si c'était cuit. Ça changeait de couleur, ça changeait de texture. Donc vous avez réussi à cuire avec de l'acidité dans votre réfrigérateur. Donc vous pouvez cuire avec de l'alcool, par exemple, et ça va faire des œufs brouillés, mais sans avoir besoin d'apporter de la chaleur. Vous voyez, donc c'est des constats comme ça.
Ça réduit la facture d'électricité.
De surcroît.
Alors, c'est un autre débat, mais qui est très intéressant. C'est-à-dire, c'est une belle parenthèse parce qu'on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Et en fait, on se rend compte aussi que rien ne cuit à 100 degrés. Quand vous faites des études. Alors que nous, le seul repère qu'on a dans notre cuisine, c'est quand ça boue, met le haricot, quand ça boue, met la viande, quand ça boue, met les œufs. Donc on peut travailler à basse température, 80, 85, et là on économiserait.
Voilà un autre avantage, effectivement.
C'est un autre aspect de...
Quand on vous écoute, c'est passionnant et on apprend énormément. Mais Anna, le futur de l'alimentation, on va le voir avec vous, en fait, ce futur est déjà là.
Ben oui, Renaud, grande première aux États-Unis, la vente de viande cultivée en laboratoire est autorisée depuis le mois de juin. Et c'est le deuxième pays qui légalise cette pratique après Singapour. Vous pouvez donc vous en faire servir dans quelques restaurants triés sur le volet aux États-Unis. Alors vous vous demandez sûrement, Renaud, comment on fabrique de la viande. In vitro.
Vous poser
alors, tout se passe en laboratoire. On fait littéralement pousser de la viande. Comment? Eh bien, on prélève des cellules sur un animal qui sont ensuite placées dans de très grandes cuves avec une sorte de bouillon de culture pour favoriser leur multiplication. Et ensuite, vous obtenez en théorie un produit qui a l'apparence, l'odeur, le goût et même la texture de la vraie viande sans avoir eu à abattre un animal. Alors, plusieurs avantages donc. Cette viande de culture, elle pourrait mettre fin à la souffrance animale et surtout, elle ne produit aucune émission de méthane. Un inconvénient tout de même, le processus de production est très gourmand en énergie. Au final, l'empreinte carbone d'une viande cultivée in vitro serait 5 fois plus importante que pour une viande classique. Raphaël Aumont, vous qui travaillez sur l'alimentation de la cuisine du futur, est-ce que vous validez ce concept de viande in vitro?
Alors, en tant que chercheur, on peut valider un process d'aller explorer, parce que c'est intéressant. Si on se dit tout de suite, non, c'est pas possible, ça va pas marcher, c'est pas bon, non, c'était quoi, c'est pas la vraie viande. Alors là, c'est sûr, on n'avance plus. Et alors là, c'est le retour, et on le voit actuellement, du c'était mieux avant, etc. Bon, ça, c'est assez insupportable. Donc, il faut aller explorer. Maintenant, il faut pas tomber dans des travers, donc il faut faire un vrai bilan énergétique. Et ensuite, il faut se dire, est-ce que c'est bon, et est-ce que, au terme de d'apport nutritionnel, c'est vraiment intéressant. Pour l'instant, ce que je vois, moi, je dirais presque hélas, c'est que c'est une cellule, donc c'est des fibres un peu mono, une seule type de protéine. Et après, le problème, c'est qu'il y a souvent, on va jouer avec de l'ultra-transformation pour redonner du gras, redonner du goût, redonner de la couleur, redonner des saveurs. Et ça va être peut-être même pire qu'avant. Donc, il faut faire des équilibres. Mais il faut quand même explorer. Vaut mieux, c'est ce qu'on défend avec Thierry Marx, vaut mieux manger moins, manger mieux, arrêter de manger de la viande tous les jours, revenir à du 80% végétal, 20% animal, mais maîtriser.
Et une dernière question, Raphaël Aumont, vous avez eu un client aussi pas comme les autres, c'est Thomas Pesquet.
Oui,
qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce qu'il a mangé dans l'espace à partir de votre cuisine?
C'est une collaboration géniale entre Thomas Pesquet, l'ESA, ENAF aussi, qui a travaillé pour cette encapsulation. Et effectivement.
Ça, c'est l'Agence européenne de l'espace.
Exactement. Et donc, travailler pour des astronautes, finalement, on travaille sous contrainte. Parce que la contrainte de ne pas être malade, la contrainte de rendre bon. Quand on est dans l'espace, on apprend aussi qu'il y a du bruit, il y a de la lumière, donc on ne mange pas de la même façon. Même nous, dans l'avion, déjà, on n'a pas envie forcément des mêmes choses. Il y a eu des articles là-dessus. Et puis ensuite, en termes de saveur, on perd des molécules aromatiques. Et donc, il faut un peu surconcentrant saveur, il faut changer les textures. Quand vous ouvrez un gâteau, il ne faut pas qu'il y ait de miettes. Il faut que la sauce ait une certaine épaisseur. Il faut un Nutri-Score A++++. Donc finalement, il y a plein de contraintes.
Il a mangé quoi grâce à vous?
Et on apprend des contraintes. Alors, on a, eh ben, alors, il est normand, il a voulu des choses très rassurantes, parce qu'il appelle ça de la comfort food. Ouais. Donc il mange des produits lyophilisés. Mais là, il a mangé justement un bœuf en sauce aux champignons. Il adore les champignons, Thomas. Et puis une sorte de 4K, on va dire, une amandine aux poires. Vous voyez, des choses très classiques, mais il faut rendre ça très bon, comestible et à 400 km d'altitude.
Et s'assurer qu'évidemment, avec la pesanteur, ça ne part pas un peu partout dans
ça la, ne part
la
pas. C'est pour ça qu'on a eu la chance de faire des tests.
On l'a vu aussi d'ailleurs.
Une plus belle expérience de ma vie, ça.
Et on l'a vu aussi grâce à ces clichés d'ailleurs. Votre nourriture ne l'a pas empêché de prendre des photos en même temps.
Donc, et ben voilà, comme quoi. Ben voilà.
Merci beaucoup en tout cas, Raphaël Aumont, d'être venu partager votre savoir avec nous ce soir. Et je rappelle donc la parution de cet Atlas des saveurs avec Thierry Marx, paru chez Dunod.
Merci.